comme ça.
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Alors, il faut le dire, côté vin, c'était pas gagné pour les femmes. À une époque, on les zigouillait même si elles avaient bu.
La dégustation d'un château d'Yquem 1937 lors d'un mariage est une révélation et l'a fait bifurquer. Mais elle s'est d'abord vue refuser l'accès aux formations en sommellerie, car trop diplômée.
Donc les femmes n'étaient pas très bienvenues dans les caves. On dit aussi que leur menstruation faisait tourner le vin. Et puis, Pascaline Le Pelletier, première femme meilleure ouvrière de France sommelier. Et quelques mois plus tard, première femme meilleure sommelière de France.
C'est qu'elles apprennent très tôt dans ce métier que pour être prises en considération, elles doivent viser l'excellence.
Ouf, merci Pascaline, on commençait à avoir soif.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. C'est une femme phénomène qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui. Pour la presse française, elle est la sommelière en or et la bonne étoile du vin. Outre-Atlantique, où elle est sommelière, le New York Times salue a very respected sommelier. Et pour cause, on n'avait jamais vu une femme remporter consécutivement en 2018 le concours du meilleur sommelier de France et le titre de meilleur ouvrier de France en section sommellerie, un doublé historique pour cette native de La Rochelle, entrée sur le tard dans le monde du vin après une hippocagne, une cagne et une maîtrise de philosophie. Et elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin, car se présente à elle, bientôt, dans quelques mois, peut-être bien le plus rude défi de sa carrière, le championnat du monde de sommellerie. Qu'est-ce qui l'a fait courir ? Quelle est sa vision du vin, ses goûts, ses convictions, mais aussi la question des femmes dans un milieu plutôt conservateur ? Toutes ces questions, on va lui les poser, car Pascaline Le Pelletier est aujourd'hui notre invitée. Bonjour Pascaline.
Bonjour.
Merci de profiter d'un de vos nombreux séjours en France pour nous rendre visite dans nos studios. Cela faisait un moment qu'on vous courait après, qu'on voulait échanger avec vous sur tous ces sujets. Et en plus, vous n'êtes pas venu les mains vides parce que vous allez nous faire découvrir quelques cuvées coup de cœur, c'est bien ça ?
Absolument, oui.
On est dans quel coin, quel vignoble ?
On est centre et sud.
Centre et sud. Et puis on va également accueillir dans le courant de cette émission une jeune vigneronne pleine de talent que vous teniez à mettre en avant.
Absolument, oui.
On n'en dit pas plus, surtout non. On ne révèle pas son identité, mais on va l'accueillir dans le courant de cette émission. Et puis on parlera aussi évidemment du livre Somme, 1000 vignes aux éditions Hachette Cuisine. À mes côtés tout au long de cette émission, je suis ravi d'accueillir notre libraire gourmande Déborah Dupont et l'un des chroniqueurs vins de la bande dont va déguster Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Bonjour. Déborah.
Nous, on va partir sur l'équation des saveurs, voilà.
L'équation des saveurs.
Moi, j'ai trouvé que ça allait bien avec le vin.
Petit phénomène de librairie en perspective ?
À mon avis, oui.
Ah, ça peut le faire. Et Jérôme ?
Moi, j'ai une surprise pour Pascaline.
Ah, surprise ou piège ?
Surprise.
Surprise, très bien. Non, on est plein de bienveillance avec notre invité du jour. Et puis, si vous voulez nous faire signe pour une réaction ou une question, notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. On va déguster sur les ondes, mais on va déguster également en ligne avec nos émissions, nos chroniques, nos recettes. Tout ça, c'est en podcast. Il y a également les coups de cœur vin de Pascaline Le Pelletier. Et ça, c'est sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter. On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Alors, le prochain candidat est une dame. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, la candidate numéro 3, Pascaline Le Pelletier, restaurant Racine, du côté de Tribeca à New York.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pascaline Le Pelletier, j'ai 37 ans, j'ai grandi dans la Loire. J'ai commencé par une mention complémentaire sommellerie, comme beaucoup d'entre vous ici. Et par la suite, j'ai rapidement continué en sommelière, d'abord à Paris, puis Bruxelles. Et depuis maintenant 9 ans, j'exerce à New York, dans un restaurant qui s'appelle Racine.
Voilà. Veuillez nous proposer un accord mets et vins original et argumenté pour le vin numéro 2. Vous avez une minute.
Donc, qui était le vin de Botrytis. Je pense que sur ce type de vin, on les sert généralement en dessert. Et malheureusement, ce sont des vins qui manquent de leur d'exposition au niveau de notre clientèle pour être servis en dessert. Un des très beaux accords que je verrai grâce à ce Botrytis, ce côté miellé, c'est un Canard Apicius, qui est un accord extrêmement classique que Monsieur Sandrin s'a développé, miellé avec des épices et d'une touche de gingembre. Il y a suffisamment de mâche grâce au Botrytis pour avoir une toute petite présence tannique au niveau du raisin, ce qui permet vraiment pour moi d'aller travailler la finesse de la viande, une viande de gibier, une viande de canard un petit peu rôtie. Le croustillant de la peau va venir vraiment se mettre en place par rapport à cette sucrosité. Et après, on va aller juste sur la garniture. Peut-être si on va travailler avec un vinaigre, peut-être un vinaigre vinaigre de pomme juste dans cette sauce apicius pour venir relever un petit peu l'acidité, ça permettra vraiment de faire un pont avec le vin. Voilà, je pense que ce sont des vins qui méritent leur place, non pas seulement en dessert, mais également durant l'intégralité du repas. Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Ça vous rappelle des souvenirs, Pascaline Lepelletier ?
Il y a le cœur qui bat la chamade, juste à réécouter.
On vous sentait particulièrement concentré, presque sur la corde raide, lors de cette finale du concours du meilleur sommelier de France, que vous avez remporté en novembre 2018. Et ça, c'était quand même après avoir été la première femme lauréate de la classe sommellerie du concours des MOF, meilleur ouvrier de France, quelques mois plus tôt, autant dire que ça a été un doublé historique.
Oui, doublé historique. J'ai des collègues masculins qui l'avaient fait de la même façon l'un après l'autre avec quelques mois d'écart, mais je crois que aussi proche, effectivement, j'étais encore sous l'adrénaline du premier, on va dire, pour aller chercher le second.
Mais ceux qui nous écoutent se rendent pas forcément compte, en fait, du niveau de difficulté de ces concours qui demandent quasiment une préparation comme un sportif de haut niveau.
Oui, bah c'est la chance du monde du vin, hein. C'est une ouverture sur le monde fantastique et ces concours de plus en plus vont plus loin que juste une simple dégustation et connaître quelques cépages. C'est vraiment des concours qui essayent de mettre en avant la culture gastronomique des pays et d'avoir une curiosité bien plus large que la bouteille de jus fermenté. On va aussi travailler plein d'autres boissons et comment les mettre en avant et comment être pédagogue et amoureux du produit avec nos clients et nos vignerons. Donc effectivement... C'est beaucoup de culture générale, c'est être curieux des boissons du monde, c'est ne pas s'arrêter parce que le vin ne s'arrête jamais. Moi, j'adore ça.
Moi, j'ai vraiment regardé, ça dure 37 minutes, cette finale du concours du meilleur sommelier de France. Et c'est d'ailleurs, la vidéo est disponible sur YouTube, on va la mettre en ligne sur franceinter.fr à la page, on va déguster. Rien vous est épargné, la dégustation à l'aveugle, le service du vin, il y a des épreuves surprises. C'est vraiment un sacré défi.
Oui, bah c'est un peu comme être dans une salle de restaurant. Hein. Je pense que si on travaille en restaurant, on sait très bien qu'on est sur une scène un petit peu tout le temps. Effectivement, il y a un côté en plus très physique. On s'en rend pas compte. Je pense qu'on s'en rend pas compte parce qu'on goûte pas vraiment de manière professionnelle tout autant qu'on est, parce qu'on n'est pas éduqué pour ça. Mais physiquement, évidemment, bah reconnaître, faire appeler ses sens, comprendre ce qui se passe dans sa tête quand on goûte un vin, en parler très rapidement, c'est des exercices... qui sont très physiques, donc ça ne m'étonne pas que souvent on compare ça à du sport. Ouais,
et là, en l'occurrence, vous imaginiez un mariage entre un vin botrytisé. Alors, rappelons en quelques mots très simples, même si nous avions fait avec Jérôme Gagnès, mon voisin de droite, une émission sur les vins liquoreux. Ouais, Pascaline Lepelletier, ce n'est pas du tout le concours, hein, rassurez-vous, mais en quelques mots pour nos auditeurs, un vin botrytisé.
Bah le botrytis, c'est une des possibilités pour faire des vins avec du sucre résiduel. C'est un champignon qu'on appelle botrytis, donc qui peut être gris et mauvais, et donc pas très bon. Mais dans certains coins du monde, c'est un petit champignon qui s'assèche, qui perce la peau des raisins et qui va permettre en fait d'avoir une dessiccation naturelle un petit peu plus accélérée qu'avec les autres types de séchage, comme ce qu'on appelle le passerillage. Mmh. Et en même temps, ce petit champignon, il va donner des notes assez particulières au vin. C'est-à-dire qu'il va apporter des notes un petit peu caramélisées, ce qu'on appelle des petites notes d'oxydation. Mmh. Il va un petit peu aussi transformer les matières acides. Et on va avoir une acidité qui va prendre parfois des notes un petit peu de sauce soja grâce à cela. Et ça fait parmi les plus grands vins liquoreux du monde. Voilà.
Et c'est précisément un vin issu du botrytis qui vous a fait totalement basculer dans le monde du vin. Vous étiez en fait étudiante en train de préparer la grecque de philosophie. Et puis tout d'un coup, vous avez frôlé le burn-out, je crois. Et le vin a été en quelque sorte salvateur.
C'est bien beau de savoir jongler avec des concepts. C'est un petit peu plus compliqué d'enseigner ces concepts à des personnes et vraiment vivre ces concepts au quotidien en tant que professeur. Et oui, et voilà, j'étais trop dans ma tête. donc ça n'a pas été. Et on m'a dit la solution, c'est apprends à vivre de tes mains, va un peu crotter les bottes. Et donc j'ai pas voulu prendre de médicaments. J'étais juste allons faire autre chose. Et ça m'a emmené dans une cave. La cave m'a emmené dans un vignoble qui m'a emmené chez un traiteur. Et je me suis dit, je connaissais pas du tout ce monde-là. Je me suis dit, c'est fantastique. Ça me plaît. J'adore.
Et quel est ce vin qui a été à l'origine, en quelque sorte, de votre reconversion?
Bah, j'ai eu la chance de pouvoir goûter un Ikem 37 lorsque j'étais interne chez Potel et Chabot, qui est un traiteur parisien pas loin de chez vous, et on préparait le mariage à la fille de Bernard Arnault, et c'était le repas test, et le maître d'hôtel qui savait que j'aimais bien le vin. J'avais pas pu être en cave là-bas parce qu'il prenait pas de filles à l'époque. Il m'a dit, tiens, faut que tu goûtes ça. Il a apporté la bouteille d'époque. Ça venait de la cave du château, la bouteille Bullet bleue. Il y avait trois quarts de la bouteille qui restait. Et je me souviens, on était le vendredi après-midi au bureau dans les petits verres en plastique, et je goûte ça, et je fais, et là, ça s'arrête.
Là, ça s'arrête. C'était incroyable. J'avais jamais eu une expérience gustative comme ça. C'est un feu d'artifice immédiatement qui se passe sur vos papilles, mais dans la tête. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le pouvoir du vin de vous transporter. Et ça a été un moment incroyable. Le soir, je rentrais à Angers, j'appelais un ami, je signais pour une mention complémentaire. Je commençais 2 semaines après.
Vous avez même fait un parallèle, je crois, avec Henri Bergson, le fameux philosophe français sur lequel vous avez écrit un mémoire lors de votre maîtrise de philosophie. Expliquez-nous ce parallèle entre un vin liquoreux certes grandiose et le concept de durée, c'est bien ça, dans l'œuvre de Bergson ?
Oui, bah le concept de durée, Bergson, il fait une différence entre ce qu'on appelle le temps et la durée. Le temps, c'est la minute, c'est le 1 plus 1 plus 1, 60 minutes, 1 heure, c'est un temps chronométré qui est borné. La durée, elle, c'est cette expérience du temporel, mais qui est dilatée. C'est-à-dire que subitement, un instant peut durer une éternité. On l'a tous expérimenté. C'est l'instant de la vie, c'est l'élan créateur pour Bergson. Et ce moment de dilatation, on peut tous le vivre, mais malheureusement, nos vies quotidiennes font qu'on est tous tout le temps dans le contrôle et dans la borne. Et ce moment-là, je l'ai eu avec le vin. Et c'était un concept que je comprenais, mais que j'avais jamais vécu. Et ce jour-là, je me suis dit, mais ces 30 secondes de dégustation ont duré une heure. C'était incroyable.
Donc, vous nous confirmez que votre bagage en sciences humaines, vos études, sont un outil supplémentaire pour appréhender le vin, peut-être de manière plus large ou différente ?
Ah oui, je pense que la philosophie, ça devrait être enseigné au CP. Oui, absolument. C'est juste la chance d'avoir pu lire des personnes qui offrent des idées pour appréhender un monde qui est au final incroyablement complexe, qui n'arrête pas de changer, qui est très dynamique. Et donc la philosophie m'aide au quotidien à me demander si les outils que j'ai pour comprendre ce monde m'aident, sont pertinents, quelles sont les valeurs qu'il y a derrière cela, et est-ce que ce sont des choses que j'ai envie d'intégrer dans mon système de vie. Et donc la philosophie, je pense, m'a aidé à aller très vite dans le monde du vin pour comprendre auprès des vignerons, auprès des acteurs du monde du vin, quelles étaient leurs démarches, le pourquoi du comment, et continuer de m'émerveiller. Donc je vois ça comme une capacité d'émerveillement, en fait, de continuer à se poser des questions tout le temps.
Vous avez donc choisi la sommellerie, vous avez fait des stages, vous évoquiez le traiteur Potel et Chabot, mais vous n'aviez pas, à cette époque-là, vraiment d'expérience dans un grand restaurant, jusqu'à ce qu'un chef vous donne votre chance quelque part en Bretagne. Bonjour Jacques Torel.
Bonjour.
Petite surprise pour Pascaline Le Pelletier.
Bonjour.
Plus de 30 ans de carrière, Jacques Torel, au fourneau de l'Auberge Bretonne, à La Roche Bernard. On a eu l'occasion de faire des émissions ensemble, je ne sais pas si vous vous souvenez, notamment à Saint-Malo.
Oui, très bien.
Où on va déguster, avait dressé le couvert, vous étiez dans le Morbihan. Oui. Désormais, vous êtes un heureux retraité. Hein.
Voilà, c'est ça, tout à fait, d'accord.
Et vous êtes une vraie figure de la gastronomie bretonne. D'ailleurs, on ne compte pas le nombre de livres de cuisine que vous avez signés, mais également les livres de cuisine que vous collectionnez, car vous êtes un grand bibliophile, l'un des plus grands de France. Oui. Hein. Vous en savez quelque chose, Déborah ?
Oui, et Jacques, j'ai toujours le « on va déguster » à vous envoyer, il n'y a pas de souci, il est bien dédicacé, je vous l'envoie, promis.
C'était pas prévu.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
C'était pas prévu.
Déborah, elle a une dette, oui.
Et cher Jacques Torel, vous avez rencontré Pascaline Le Pelletier en 2005. Elle n'avait alors que 24 ans. Racontez-nous cette rencontre.
Je reçois un CV assez étonnant, parce que Cagne, Pocagne, les philos, je dis, c'est quoi ce truc-là? Et puis donc, j'ai envie de rencontrer le personnage, parce que déjà, c'est attirant. Je reçois Pascaline. Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai pas besoin de sommelier. J'en ai déjà 2, et j'ai 2 filles qui sont très bien, et puis l'entretien se passe. J'ai dit, vous allez aller où? Non, on arrête tout, vous venez chez moi, je vous prends tout de suite. Et donc, c'est la seule année où on a eu 3 sommelières dans la maison, et c'était bien, je regrette surtout pas aujourd'hui.
Parce qu'alors, donc 15 mois, c'est bien ça, vous étiez en apprentissage,
oui,
Pascaline?
Oui, j'étais en apprentissage, oui. Et je connaissais rien au vin, qu'on soit clair.
Mais alors, que s'est-il passé? Parce que vous gardez, Jacques Torel, paraît-il, un souvenir absolument impérissable de votre collaboration avec Pascaline. Expliquez-nous.
Comme je dis toujours, c'est l'employé qui m'a le plus fatigué. C'est-à-dire qu'on démarrait une conversation, le service continuait, elle revenait dire « Ah oui, vous m'aviez parlé d'un tel, c'était ci, c'était ça », et elle reprenait. Et elle lâchait jamais, donc on était toujours en prise directe avec elle. Ah ben, elle m'a boosté, j'ai pas honte de dire, elle m'a boosté. Elle m'obligeait à travailler, ce qui n'est pas dans ma nature, donc faire des recherches et tout. Puis comme j'avais les livres et tout, c'était passionnant. Mais moi, on échange toujours beaucoup, c'est passionnant avec elle.
Pascaline, quel souvenir vous gardez de cette expérience chez Jacques Torel?
C'est incroyable. Je crois que j'ai pas compris ma chance quand je suis arrivée. Et c'est quelqu'un qui, j'y connaissais une fois encore Yann Auvin, qui m'a ouvert ses portes, qui m'a ouvert son cœur, sa bibliothèque, son temps. Il a été d'une générosité incroyable au niveau des échanges. Et aussi, il l'a fait d'une manière incroyablement pédagogique. Voilà, il m'a envoyé, j'avais 3 mois de sommellerie. Je lui dis, on a une semaine de vacances en janvier. Il m'envoie en Bourgogne. Il m'ouvre toutes les portes des grands domaines. Il me dit, tu me représentes, ne me fais pas honte. Et voilà, et ça a été Meunier, Roumier, Meunier, Gibourg, Lafond, Le Fleuve. Et voilà, et une confiance incroyable. Et il m'a immédiatement appris vraiment l'exigence. Et depuis, bah, c'est quelqu'un qui ne m'a jamais laissé tomber, qui m'aide encore aujourd'hui. Il y a quelques jours, on était ensemble pour s'entraîner pour le concours. À chaque fois que j'ai des questions, il n'y a aucun problème, je peux l'appeler. C'est fantastique de faire d'avoir ces relations-là dans le monde de la restauration. Souvent, on décrit ça comme un milieu dur, misogyne, macho. C'est vrai, il y a des excès, mais il y a aussi des gens incroyables. Et sans Monsieur Torel, sans un homme comme Monsieur Torel, je ne serais pas là du tout où j'en suis.
Waouh, ça c'est une sacrée déclaration. Wow. Vous êtes en quelque sorte le parrain de métier de Pascaline Lepelletier. C'est vrai que vous avez gardé une relation très fidèle. Je crois que même vous êtes allé la voir à New York, Jacques.
Ah oui, là, je suis allé cet été la voir chez Racine. Elle m'impressionne toujours. Et c'est bien parce qu'elle a un beau binôme avec son cuisinier. Et puis il y a vraiment un travail. Moi, je trouve ça passionnant qu'on fait le travail sur le vin et la nourriture. Normalement, ça devrait pas se dissocier, mais c'est malheureusement trop souvent dissocié aujourd'hui. Mm-hmm. Et elle le fait très bien, c'est vraiment bien. J'ai goûté des choses extraordinaires chez elle.
Pascaline a beaucoup de travail en ce moment, puisqu'elle prépare une épreuve immense dont on va parler dans un instant et qui demande beaucoup d'énergie, d'efforts et de temps. C'est le championnat du monde de sommellerie en février prochain. Un grand merci Jacques Torel, et vous merci. Revenez quand vous voulez sur le plateau dont on va déguster. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Derrière la console, pour réaliser cette émission, Laurent Thomas, Raphaël Rousseau, Adrien Bugeaud, Fabrice Rivaud. Dans un instant, Pascaline, vous nous faites découvrir une première cuvée coup de cœur. Ça va se passer du côté de l'Auvergne. Et on vous propose également une petite séance d'entraînement, justement dans la perspective du championnat du monde de sommellerie. On vous a trouvé un super coach en la personne de Jérôme Gagnez. Chin Chin avec Pascaline Lepelletier sur France Inter.
Couple of drinks, gotta find myself a 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 couple of drinks. Red, red wine, you make me feel so fine. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine. I got troubles on my mind. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind.
I went down the street to find myself a couple of drinks, hanging around with my homies, having fun together, a real pleasure. Thinking about what I have to do to get happiness back in my life again. Sometimes some brewish can do this, bro. Red, red wine can make you feel so fine. Chase it blood, everything comes from God.
Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind.
Red Wine, c'était Bibi Tanga et de Selenitz. À l'occasion de son livre « Mille vignes » qui sort ce mercredi, la sommelière phénomène Pascaline Lepelletier est notre invitée ce matin.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Allez, un premier coup de cœur de Pascaline. On vous a lancé le défi de nous apporter des cuvées qui, en plus, peuvent être accessibles pour tous nos auditeurs, puisque elles ont un prix très raisonnable. C'est peut-être ce qu'on peut commencer à dire.
Le monde du vin est en train de vivre quelque chose d'assez fou. Les prix s'envolent. Alors, pas partout. Il y a des bulles spéculatives. Alors, moi, je suis bien placée pour le savoir à New York. Mais le vin, il y a tellement de superbes vins qui sont pas forcément tendance, à des prix incroyables, faits par des gens qui travaillent vraiment. Et lorsqu'on goûte un peu, bah, on a des petites pépites. Et on en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Il faut juste qu'on les mette en avant. Et voilà, c'est ce que je voulais avoir. Des vins que j'aime beaucoup et un rapport qui a été pris, je pense, imbattable.
Ouais. Première pépite alors, vous versez dans nos verres.
Oui, alors ça c'est un domaine que j'ai eu la chance de visiter l'année dernière. Alors même si je suis à New York, j'essaye quand même d'aller régulièrement dans la vigne. C'est un peu la condition pour moi, chaque fois que je suis dans un restaurant. C'était plus compliqué avec la Covid. Et ça, j'ai découvert ce vin grâce aussi à un mentor qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide toujours, que c'est Patrick Rigourd, qui était mon prof de sommellerie. Et on est allé se balader en Auvergne. Parce que voilà, l'Auvergne, on en parle de plus en plus, c'est un vignoble historique qui est un peu périclité après la crise phylloxérique et la guerre, mais l'Auvergne recèle des terroirs incroyables, des vins de personnalité. Et donc là, c'est le domaine des Trouillères. L'Auvergne, principalement, fait des pinots, surtout des gamets, des chardonnays, des pinots. D'altitude, on est sur des terroirs un peu particuliers pour la France, des terroirs qu'on dit volcaniques, alors c'est un peu plus complexe que ça, mais ça donne des profils de bouche super, moins d'alcool et en même temps mûr et gourmand. Donc c'est un couple qui s'est installé il y a quelques années, en 2016, et qui a repris en fait le domaine du créateur de l'appellation, qui s'appelait Monsieur Pradier, qui était déjà en bio. Mm-hmm. Et ce couple s'est installé pour continuer en fait dans la démarche de respect de l'environnement. C'est cette pratique du vin précis, sans fioritures, droit au but, mais en même temps gourmand. Donc j'ai pris la cuvée Anolium de Camille et Michael Hiver.
C'est ça.
Chardonnay, avec une petite presse directe de Gamay. Donc voilà, ça se fait un petit peu. C'est pas la chose qu'on fait le plus avec les cépages rouges. Le Gamay, c'est un cépage rouge.
Puisque là, on est bien d'accord qu'on est sur un vin blanc.
Oui, c'est un vin blanc. C'est un petit délice sur ces vins que vous mettez sur les apéritifs, sur les entrées, ce genre de vin que vous avez envie de boire au quotidien, qui se boivent. Comme presque, il y a ce côté eau de roche, voilà, le vin c'est de l'eau de roche au final, l'eau de pente est de l'eau de roche.
Une salinité, qu'est-ce que vous en pensez Jérôme ?
J'en pense plein de bien, j'avais parlé de ce domaine en 2018, cette même antenne, avec cette même cuvée mais en rouge. Et c'est vrai que c'est un prix très modeste.
On est aux alentours de... oui, on a un crachoir, on rassure nos auditeurs.
Entre 12 et 14 euros en cave chez votre caviste du coin.
Et je rejoins tout à fait ce que dit Pascaline. Il y a une pureté cristalline dans ce vin. Et pour autant, il y a quand même de la matière. Hein. C'est pas un vin qui est maigre, c'est pas un vin décharné. C'est un vin qui a de la chair et en même temps, il y a une très jolie pureté.
Et oui, il y a une belle tension et beaucoup d'énergie.
Et une longue finale salivante. À 12 euros, on a un niveau de vin. Il n'y a pas beaucoup de régions qui proposent ce type de niveau de vin à ce prix-là. Hein.
Vous prenez le temps, Pascaline, puisque vous êtes sommelière, rappelons-le. À New York, d'ailleurs, le nom de votre restaurant a changé, hein, dans lequel vous êtes associé, dans le quartier Tribeca, à New York, ce n'est plus Racine.
Oui, ça s'appelle Chambers, comme la rue, comme la station de métro.
Absolument.
Voilà, Chambers, dans le bas de la ville, pas très loin du World Trade Center.
Mais vous prenez le temps de faire des allers-retours très réguliers pour visiter les vignobles de France et du monde.
Oui, bah absolument. Ce que j'ai appris très tôt, c'est que le vin, ça se fait à la vigne et que si vous voyez pas les paysages et vous rencontrez pas les hommes, c'est très compliqué. Et plus la chaîne est distendue en fait entre le producteur et le consommateur final, plus c'est compliqué en fait de savoir exactement ce qui se passe. Et on le sait très bien dans le monde du vin, il y a beaucoup de choses entre la nature, le bio, le biodynamique, les pratiques et tout ça. Rien ne remplace en fait d'aller voir les personnes, même si ce n'est qu'une fois. Et je crois vraiment à la force du terroir, mais aussi vu comme paysage global, c'est-à-dire la lumière, le ressenti des odeurs, la personne dans son environnement, le vigneron dans son environnement, dans sa vigne, c'est pas le vigneron sur un salon ou le vigneron qui vient me voir à New York. Voilà, j'en vois plein des vignerons à New York, c'est fantastique, mais c'est pas la même chose. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation du vigneron de la vigneronne dans sa vigne. C'est ce côté humain, touché avec la nature. Et ça, on l'a pas vraiment si on est sorti du contexte.
Et en l'occurrence, cette cuvée Anolium de Camille et Michael, Hiver, excusez-moi, en Auvergne, on est dans le Puy-de-Dôme, le domaine Les Petites Trouillères. Vous le proposez à vos clients dans votre restaurant de New York?
Oui, alors il vient d'arriver à New York, ouais. Il y a du décalage, voilà, logistique. Le monde du vin, il y a le côté rêve et il y a le côté réalité logistique. Absolument.
Très bien. Bon, vous connaissez l'animal, Jérôme Gagnès?
Oui.
L'un des chroniqueurs vin de France Inter. Vous vous êtes maintes fois croisé, je crois, dans des dégustations de vin de Loire, notamment. Hein.
Oui, oui, on s'est croisé en Loire souvent, enfin, parfois en Loire, oui, tout à fait.
Pascaline, on ne sait pas si Jérôme Gagnès vous a réservé une surprise ou un piège.
On va déguster sur France Inter.
Que va-t-il se passer ?
Bon, alors, c'est pas un piège, hein, Pascaline, que les choses soient claires.
Ça a l'air d'un piège.
C'est pas du tout un piège. Je suis allé choisir un vin. Je crois que c'est ma dernière ou mon avant-dernière bouteille.
Précisons, juste avant de lancer effectivement cette petite dégustation à l'aveugle.
La bouteille est dans de l'alu, dans de l'aluminium, donc Pascaline ne sait pas ce qu'elle déguste.
Et que c'est une façon de participer à votre entraînement général.
Mais merci beaucoup,
Jusqu'à cette échéance incroyable février prochain.
Oui, parce que pour le coup, il faut dire, là un peu plus sérieusement, je laisse à Pascaline le temps de découvrir tranquillement le vin. Le meilleur sommelier du monde, c'est un concours colossal à tout point de vue, par la maîtrise qu'il demande, par l'énorme travail de préparation qu'il exige, pour avoir la chance de croiser quelques meilleurs sommeliers du monde de temps en temps, en particulier Olivier Poussier, pour qui j'ai une très grande affection et admiration.
Et qui fut d'ailleurs le dernier sommelier français.
À avoir gagné ce concours.
En 2000.
C'est une somme de connaissances qui est hors norme, c'est une connaissance extraordinairement intime du vin, qui fait qu'on connaît le prénom des cailloux. Il y a un moment où on rentre dans l'intimité de ce breuvage à travers à la fois sa connaissance technique et analytique, mais aussi un très profond amour pour ce breuvage et ceux qui le font, parce que on peut pas réussir ce concours sans avoir ça. Et je suis extrêmement heureux que Pascaline nous représente en 2023. Ce sera à Paris en plus.
Ceux de nos auditeurs qui connaissent pas trop le mécanisme de cet énorme concours d'une difficulté dingue, hein, le championnat du monde de sommellerie qui se déroulera donc à Paris en février prochain. Comment vous avez été choisi pour représenter la France ?
Alors, il faut être soit meilleur sommelier de France, soit meilleur ouvrier de France. Mm-hmm. Et une fois qu'on a un titre national, chaque année, il y a une qualification parmi nous. Et ceux qui veulent représenter le pays se présentent. Et voilà, donc la qualification a eu lieu en mars. On devait être 7, on a été 6. Et donc, une journée de sélection bien costaud. Et j'ai eu la chance de sortir première.
Et alors, j'ai une question, Pascaline, parce que ça, c'est une chose qui est finalement... Tu incarnes dans la sommellerie une sommellerie assez moderne, notamment avec un goût pour des vins qu'on dit nature. On aura l'occasion d'évoquer en un mot ce que ça représente. Mais en fait, t'es un peu la première à venir te frotter au concours, à venir te frotter à une institution qui découvre ces vins-là aujourd'hui. Tu incarnes pour ça un vrai renouveau dans le concours.
Je sais pas si j'incarne un renouveau. Je suis extrêmement sincère par rapport à ce que je pense du vin. Donc, je crois que les vins d'expression, de terroir, de tout ce qu'on doit montrer en scène et goûter, ce sont ces types de vins-là. Donc après, ça devient presque une évidence. Et je crois aussi qu'il faut vraiment continuer d'avoir une ouverture d'esprit la plus large possible. Si je goûtais que du nature tout le temps, j'oublierais d'abord une grande partie de l'histoire de la sommellerie et j'oublierais aussi une grande partie des gens qui boivent du vin. Et c'est pas bien. Il faut continuer toujours à creuser. Et une fois encore, le vin, c'est toujours en mouvement. Donc... c'est vrai que je suis plutôt contre, par contre, des choses qui sont vachement sclérosées. On dit, voilà, un Sancerre, ça doit goûter que comme ça. C'est un profil très stéréotypé, j'aime pas ça du tout. Le vin, au contraire, c'est de la liberté, donc il faut vraiment embrasser ça. Et c'est vrai que le concours, maintenant, le fait beaucoup plus, ça a pas mal changé, je trouve ça fantastique. Et c'est aussi pour ça que j'y suis allée. Hein.
C'est quoi la définition de Pascaline Le Pelletier d'un vin nature, si tant est que vous acceptiez cette étiquette ?
Ouais, c'est compliqué. Je crois que l'idée de nature-culture est une mauvaise idée déjà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à redire à la base par rapport à ça. Bah, pour moi, un vin nature, c'est juste un vin où le vigneron a gardé et a un respect pour sa vigne et la vie de son vivant, de son terroir et dans son intégralité du terroir, un respect pour le vivant et a une humilité par rapport à la production du vin où il y a plus une conduite naturelle, parce que quand même la nature est extrêmement bien faite, hein, c'est pas le vigneron qui fait le vin, c'est les levures au final. Et qui a permis de garder ça avec le moins d'intrants et de stabilisants possible, parce que la fermentation le permet. Voilà, donc ça pour moi c'est une définition du nature, et la finalité aussi un vin qu'on boit normalement plus facilement et qui permet vraiment de lier les gens, quoi. C'est vraiment des vins qu'on a envie de boire parce que ça, le corps les accepte, parce que moi je crois vraiment qu'on est des homo imbibens, hein, on est homo sapiens parce qu'on a l'homme a la capacité de boire de l'alcool, pas beaucoup, mais de boire un petit peu, on peut le faire. On a les enzymes pour ça. Et donc les vins nature ont été un coup de pied devant la fourmilière pour boire mieux ensemble et pour mieux faire attention, en fait, avec humilité, avec aux phénomènes qui permettent d'avoir du vin. Et c'est des phénomènes naturels. Donc voilà, c'est ça, pour moi, le vin nature. C'est un chouette mouvement. Malheureusement, bah, comme tout, ça a été un petit peu galvaudé. Il y a des excès, mais c'est une belle idée.
Alors revenons justement à ce vin mystère que Jérôme Gagnez a versé.
Est-ce qu'il te plaît ce vin ?
Alors il me plaît beaucoup ce vin.
Mais j'aimerais une description, y compris même chromatique, pour ceux qui nous écoutent, qui par définition n'ont pas l'image.
Ah oui, vous n'avez pas l'image, mais c'est vrai. On est sur un vin qu'on dit légèrement un petit peu évolué. Il faut imaginer une robe un peu prune qui part sur des notes un petit peu cardinales. Donc on est sur un rouge un tout petit peu fané, mais il y a beaucoup de concentration. C'est une très jolie robe. On sent qu'il y a un peu de maturité dans le vin. C'est une robe qui semble un peu assagie. Probablement un tout petit peu de ce qu'on appelle des sédiments. Donc ce qui est aussi normal parce que ça veut dire que la matière tannique s'est un tout petit peu concentrée et commence à se déposer au fond de la bouteille. Donc on est sur une très belle robe de vin un peu assagie. Le nez est très ouvert. Donc ça veut dire qu'immédiatement on sent plein de choses. Et il allie encore une vraie jeunesse. Donc il y a beaucoup de notes qui rappellent encore une fois la jeunesse. Généralement pour nous c'est des fruits et des fleurs, c'est les descriptifs qu'on utilise, mais c'est très sur la prune et la cerise, avec une petite touche ensoleillée méditerranéenne et qui finit après sur des notes très complexes d'épices. Donc c'est un très joli nez, c'est pas un nez qui vous agresse, c'est pas un nez qui demande beaucoup d'introspection, c'est un nez qui se donne immédiatement. Et on retrouve ça en bouche. Donc on décompose généralement le vin en trois temps, et la bouche, pour moi, c'est vraiment là où l'âme du vin se révèle, avec les textures, le palais, le toucher de bouche.
Entièrement d'accord. Le toucher de bouche, c'est très important.
Le toucher de bouche, 20% des capteurs du toucher, c'est dans la bouche, et on les ignore, on ne sait pas comment trop les utiliser. On est un peu des handicapés du goût, à mon avis, pour moi, et c'est super de le découvrir. Et là, ce que j'aime, c'est un vin qui est mûr, qui est assagi. Aromatiquement, on est un peu à l'apogée parce qu'on a des notes jeunes, des notes encore un peu d'élevage. On voit un peu où le vin va vieillir. Donc, on est vraiment dans un 360 en termes d'aromatique. Et on a à la fois de l'acidité. À mon avis, une acidité peut-être qui vient du raisin, mais qui vient aussi de la vinification. Une petite pointe d'acidité qu'on appelle un peu volatile, qui joue parfois prise comme un défaut, mais ici qui donne vraiment un élan du vin. Super.
Entièrement d'accord. Tout super. À fait. Oui, la volatile ici sauve le vin.
Elle élève le vin et un toucher de bouche juste un tout petit peu juteux, comme une toile de jute. Un tout petit peu granuleux. Voilà.
Géographiquement, à votre avis, est-ce que vous avez une petite idée de l'endroit où Jérôme Guéniez vous emmène Nous emmène d'ailleurs.
Alors, écoutez, j'ai eu une journée hier de préparation pour le concours où j'ai goûté très mal. Donc c'est bien, ça arrive. Après, il faut croire ses premières intuitions. Alors peut-être que là, je suis tout à fait off, c'est tout à fait possible. C'est l'humilité, là, l'école, la dégustation à l'aveugle. J'ai un côté un peu sud, quand même. J'ai un côté sud méditerranéen d'altitude, avec des cépages qui peuvent garder ses acidités. J'ai des flashs dans la tête où je vois un petit peu... on monte un petit peu, on est sur des sols relativement caillouteux, on sent qu'il n'y a pas trop d'argile, on sent du soleil, on sent une maturité longue.
Ouais, maturité longue, évidemment. C'est un millésime qui est un peu ancien, c'est un vin qui a une quinzaine d'années. Chez deux vignerons qui trompent un peu leur monde, pour le coup, parce que c'est vrai que ce vin, il a ce profil un peu méridional, de grande maturité, avec une belle acidité. Et pourtant, il n'est pas...
Si sud que ça.
Il n'est pas au sud. C'est une région qu'on aime beaucoup, tous les deux. Et un domaine qui s'est créé en 2004...
Alors, je sais que je dois connaître toutes les dates de création de tous les domaines du monde, mais alors là, je sèche un peu là.
Non, je pense que ce sont des schistes.
Oui, ça goûtait schiste. Ça goûtait les terroirs de schiste, ces tanins là, en finale, peu...
C'est ça, exactement.
Donc, on est à la maison.
On est à la maison, oui.
On est à la maison. voyez, il faut que je goûte encore plus.
On est à la maison, on est à la maison, on est avec Marc et Julien. Ça te dit quelque chose?
Oui, on est chez Grange Aubel.
Bravo. C'est Nina 2008.
Ah, c'est superbe. Mais bravo les garçons.
Évidemment, Pascaline a le bon mot. Bravo, bravo, bravo Marc Houtin et Julien Brestaud, domaine de la Grange Aubel. C'est une de mes dernières bouteilles. J'ai gardé ce vin longtemps parce que quand je l'ai acheté, je me suis dit, il a du potentiel. Il y en a plein que j'ai dit, il a du potentiel, puis maintenant ils ne sont pas bons.
Mais celui-là,
il est
bon. Où on est ?
On est en Anjou.
On est en Anjou,
Un Gamay d'Anjou, 2008, du domaine de la Grange Aubel.
2008, d'où
2008,
l'évolution.
C'est du vin nature. Ça montre aussi, évidemment, Pascaline ne l'ignore pas, mais nos auditeurs peuvent l'apprendre aujourd'hui. Le vin nature, quand c'est bien fait, ça se conserve longtemps. Et ça me faisait très plaisir de partager ça avec
beaucoup,
Pascaline, parce que c'est un domaine que nous aimons beaucoup tous les deux. Nos auditeurs trouveront les coordonnées du domaine sur le site de l'émission. Allez rendre visite à Julien Brestaud et à Marc Houtin parce que c'est l'assurance de goûter des très jolis vins d'Anjou.
Très bien, on va déguster spécial Pascaline Lepelletier. Dans un instant, merci Pascaline, votre invité va nous rejoindre sur notre plateau. Indice, c'est une très jeune vigneronne qui incarne l'avenir d'une des plus belles appellations de la vallée de la Loire. On y est, on y reste, on n'est pas très loin de l'Anjou. On se retrouve dans un instant.
Show.
Monterey, c'est la très belle reprise de Nick Waterhouse.
On va déguster. Sur France Inter.
Pascaline Lepelletier, vous êtes sommelière, vous allez aussi être maintenant animatrice d'On va déguster, pour nous présenter la vigneronne que vous avez conviée autour de notre plateau.
Merci de m'avoir donné cette opportunité-là, c'est vraiment super. Et je vais mettre en avant Laura David.
Laura David, bonjour.
Bonjour,
merci d'être là.
Merci à vous de m'accueillir, merci voilà. Pascaline.
Et donc le vin de Laura, je l'ai goûté de manière rapprochée très rapidement à New York et sur un salon. C'était juste avant la Covid en fait. Je vais la mettre en avant parce que c'est rare de faire une installation dans une appellation qui s'appelle Mont-Louis-sur-Loire, donc on est dans la Touraine, on est juste à l'est de Tours, qui, malgré des millésimes de gel économiquement compliqués, elle est là avec un vrai projet de vin que je trouve fantastique, installé avec avec son ami, je pense pas que vous êtes mariée.
Oui.
voilà, et je trouve que les vins là, passer par-dessus ces difficultés et faire ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est fantastique. Et je voulais la mettre en avant. Voilà.
Très bien. Alors Laura David, vous êtes vraiment jeune vigneronne, hein, dans tous les sens du terme, parce que vous avez moins de 30 ans.
Un petit peu plus, 31
ah,
ans.
Pardon.
Je me suis installée à 25 ans.
On peut voilà, installée à 25 ans. Donc votre premier millésime à Mont-Louis-sur-Loire, c'était
2017.
C'est ça.
Je suis arrivée sur l'appellation Mont-Louis-sur-Loire en février 2017.
Mm-hmm.
On m'a présenté un vignoble de 7 hectares d'un seul tenant à reprendre et à tailler. Donc j'avais 2 mois pour tailler ces 7 hectares, me décider si je m'installais ou non, et me lancer dans la grande aventure.
Sachant que vous aviez déjà une petite histoire de vin dans la famille.
Alors mon arrière-grand-père était vigneron à Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
Mm-hmm.
Donc en effet c'est assez ancré dans les gènes et dans l'histoire de ma famille, ce côté terroir, vigneron, partage autour du vin. Pour moi ça n'a pas été possible de reprendre cette exploitation familiale, trop de générations entre nous et pas assez de maturité au moment où j'aurais pu la reprendre. Donc c'est un petit peu plus loin que j'ai décidé de poser mes valises. Je cherchais du boulot comme beaucoup de personnes de 25 ans après la fin des études et j'ai pas trouvé de poste qui convenait à mes... J'aime la polyvalence, au fait. Je voulais pas choisir un poste dans ce métier de vigneron. Donc, bien sûr, j'ai rien trouvé. Sauf 7 hectares de vignes qui avaient été... un fermage avait été laissé en 2016. Après le gel de 2016, beaucoup d'exploitations se sont restructurées. Et j'ai pu arriver, m'installer et commencer à créer quelque chose, à apprendre de ces terroirs, à apprendre du métier et de moi-même, beaucoup aussi.
Vous avez ainsi défini votre projet dans une interview. « Je veux rester simple ». Réussir à faire des vins nets et représentatifs de mes terroirs.
Ouais, voilà, c'est ça complètement. Alors là, je suis encore vraiment dans cette recherche. Sixième vendange qui vient de passer. J'ai pu observer au fur et à mesure des millésimes des disparités dans mes terroirs. Je suis quasiment sur un seul tenant sur mes vignes. Donc en Chenin, Cabernet Sauvignon, Caux, Pinot Noir. Et au fait, chaque année, selon la climatologie et ce que nous apporte le millésime, j'ai différentes orientations. Des pleins sud, des est-ouest, avec différents types de sols. Des sables, des argiles à silex. Et de là, j'essaye d'élaborer des vins. D'élaborer une gamme qui, depuis 5 ans, a toujours changé, parce que je suis toujours dans cette recherche. Mais l'objectif, voilà, c'est de révéler au mieux le terroir et le millésime à l'instant T.
Eh bien, justement, parlez-nous de cette cuvée qu'a choisie Pascaline Lepelletier, l'Optimiste. C'est un millésime 2018 que vous avez versé dans nos verres. En quoi consiste cette cuvée ?
Alors, cette cuvée, c'est un demi-sec. Sur 2018, j'ai eu beaucoup de passerillage sur une de mes parcelles orientées est-ouest, justement, en enherbement total. Et sur cette parcelle, on a fait 2 passages. De chenin, bien entendu. Un premier passage pour ramasser le sec, qui est dans notre gamme. Et les raisins étaient déjà vraiment bien dorés, très exotiques, très concentrés en tout début de vendange. Donc, on les a laissés. Et on est passé 3 semaines après. Et on a sorti un jus avec beaucoup de fruits exotiques, quelque chose de très concentré en sucre, même déjà le côté caramel. Et on s'est dit, celui-là va sûrement finir en demi-sec sur la fin des fermentations.
Jérôme Gagnès, on rappelle en un mot le passerillage pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément une idée claire de ce concept.
Pascaline l'évoquait tout à l'heure, c'est une autre façon de faire des vins avec des sucres résiduels. Le passerillage, c'est tout simplement le fait de laisser surmûrir sur souche ou sur clay dans une cave. On va laisser le raisin un peu plus longtemps, il va se concentrer, faire une dessiccation qui va concentrer à la fois sucre et acidité. Et c'est ce qui permet d'avoir ici un profil de demi-sec. Donc c'est un vin qui doit avoir quoi, une quinzaine de grammes de sucre.
Alors là,
résiduel.
on a 24 grammes de résiduel. J'ai pris l'initiative de le classé dans le demi-sec parce que on garde quand même une très belle fraîcheur. Ah, on est sur des argiles à silex avec quelques veines plutôt de sable.
On sent pas autant de sucre résiduel.
Mais c'est pour ça que j'annonçais 15. Je trouve ce vin absolument remarquable. J'avais déjà goûté vos vins, probablement la même année que Pascaline, à votre première participation au Salon des vins de Loire à Angers. Je me rappelle très bien. Et je trouve ce vin remarquable, d'équilibre. Ça incarne pour moi ce qui fait partie du meilleur de cette appellation Mont-Louis. La production de très grands vins de gastronomie, à des prix qui restent très sages. Je ne sais pas, quel est le prix au domaine de ce
vin ? Là, au domaine, il est à 16 euros.
Bon, des vins de ce niveau-là, enfin, c'est lunaire. Parce que là, on le goûte, c'est en 2018. Laissez 10 ans à ce vin et vous allez en faire une bombe gastronomique exceptionnelle. Alors, bravo Pascaline, c'est un super choix. Bravo Laura, c'est un vin absolument délicieux.
Est-ce que vos clients new-yorkais, Pascaline Le Pelletier, ont eu la chance de goûter ou ont-ils la possibilité de goûter les vins de Laura David ?
Oui, Laura, elle est maintenant à New York aussi. New York, maintenant, on est chanceux. Non, mais c'est super. Et sur un millésime 18, qu'on associe souvent avec des choses un petit peu pâteuses et lourdes, ouais. Là, il y a une tension incroyable, l'acidité est superbe, aromatiquement, c'est top.
Et le petit plus à la mise en bouteille, pendant la fermentation alcoolique, l'action des levures qui vont dégrader les sucres vont créer du gaz. Et ce gaz apporte beaucoup de fraîcheur dans les vins. Donc là, pour justement garder cet équilibre et insister sur la fraîcheur dont on avait besoin en 2018, je n'ai pas dégazé le vin à la mise en bouteille. Donc, il y a un léger perlant à l'ouverture, mais ça apporte tout son peps et ça soulève et ça révèle l'aromatique, quoi.
Les vins de Laura David à Mont-Louis-sur-Loire qui font vraiment parler d'eux, hein, sur la scène vin, ça c'est certain.
Oui, je voudrais rassurer les auditeurs, il y a un très léger perlant. Il faut avoir le palais très exercé pour le sentir. Il y a encore une fois un équilibre souverain dans ce vin.
Incroyable.
C'est une gourmandise de haut vol.
Sensation forte. Vraiment, bravo, cuvée, l'optimiste. Pour les auditeurs que ça intéresserait, il y a encore du stock ou pas au domaine ?
Oui. On a encore du 2018 au domaine, qu'on a laissé bien au chaud dans les caves.
Sacrée
et on
sensation.
A réussi à réitérer cette cuvée en 2020.
Très bien. Vous restez avec nous, hein,
avec
Laura
David,
car on va parler justement un petit mot sur les femmes dans le vin. Des vigneronnes, des sommelières d'exception et des femmes du vin, également dans des livres.
Pas mal de livres. Déborah et il faut Dupont. Saluer le travail des éditions Hachette, qui effectivement ont publié le livre de Pascaline, Mille vignes. Mais on a aussi sorti un petit peu plus tôt un livre, alors là, qui est vraiment une introduction très générale pour les débutants et ceux qui veulent s'initier. Le livre de Rouge aux Lèvres, dont on voit les vidéos, qui est sous-titré Kit de survie du wine lover, mais aussi la bande dessinée In Vino Femina, Tribulation d'une femme dans le monde du vin, où on retrouve d'ailleurs quelques pages sur Pascaline notamment.
Oui.
À la page 38, on trouve Pascaline. On trouve d'autres figures féminines du vin. Alors, c'est à la fois truculent parce qu'on rigole beaucoup en lisant et en même temps, je suis parfois saisie d'effroi quand je lis tout ce machisme, tout ce conservatisme, tout ce côté rétrograde auquel les femmes du vin sont confrontées quotidiennement. Et petit clin d'œil pour nos auditeurs, Jérôme et François-Régis, je dois vous dire, vous êtes très très bien croqués, page 127.
Il est très ressemblant, les Gagnès.
Vous êtes tous les deux très ressemblants.
Pas la moitié de la vignette.
C'est Jérôme Gagnès qui mettait en avant précisément une vigneronne dans l'émission, on va déguster.
Isabelle Pango.
Exactement, donc un petit bijou. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir le portrait d'une femme absolument formidable, May Eliane de Langsin, Les vendanges d'un destin, chez Taillandier, qui est absolument fascinant.
La générale.
Oui, mais j'ai été ébahie de découvrir cette femme d'une autre époque, il faut le dire, puisque elle a quand même maintenant
un certain âge. C'est une femme qui a embrassé le 20e siècle.
Voilà.
Mais et qui était propriétaire du château Pichon, comtesse de Lalande, à Pauillac, dans le Bordelais. Et elle a maintenu la barre très fermement. C'est une femme exceptionnelle.
Et ensuite, elle est partie en Afrique du Sud.
Tout à fait, madame. Elle produit du vin en Afrique du Sud.
Absolument incroyable. Donc oui, allez en librairie et regardez tout ce qui est sorti cet automne sur les femmes dans le vin. Il y a vraiment des petites pépites.
Vous faisiez allusion justement au nouveau livre de Pascaline Le Pelletier, Mille vignes, inventer le vin de demain, aux éditions Hachette Cuisine. J'ai eu l'occasion de le regarder, de le feuilleter, de le lire en avant-première, puisque vous m'avez fait l'honneur de me demander de le préfacer. Travail incroyable. Ce n'est ni une encyclopédie, ni un dictionnaire. C'est un peu le livre avec lequel vous auriez aimé apprendre le vin, justement, Pascaline ?
Oui. Il manquait un peu un livre pour moi qui faisait le lien entre les ouvrages un petit peu introducteurs, qui donnent vraiment les grandes bases pour commencer à pénétrer ce monde quand même, qui se veut occulte, qui au final n'est pas si occulte, qui se veut occulte un petit peu, et des ouvrages et des travaux fantastiques qui se font au niveau un petit peu plus technique, universitaire et spécialisé. Donc c'était un peu l'idée de ce livre, et moins de donner des réponses que d'apprendre à poser des questions. Prendre confiance en soi et pouvoir devenir un petit peu critique, mais dans un sens très noble de critique, c'est-à-dire de pouvoir apprécier les choses avec du recul et savoir le pourquoi. Donc c'est un peu le propos du livre, c'est que le lecteur devienne plus capable, plus prêt, et avoir confiance en lui après la lecture du livre.
« Mille vignes, inventer le vin de demain » aux éditions Hachette. Vous rassemblez dans plus de 350 pages, de manière érudite et pédagogique, des connaissances scientifiques, botaniques, géographiques, historiques, esthétiques, autour du vin. Et c'est encore une fois un travail tout à fait éblouissant. On va finir par une petite touche solide avec Déborah Dupont.
France Inter, on va déguster.
Donc aujourd'hui, émission dédiée au vin, et j'ai choisi de vous parler d'un livre qui ne parle pas de vin, qui parle en revanche Équation des saveurs. Ça m'a tout simplement paru évident. On y parle beaucoup émotion dans ce livre, dans le chapitre introductif, et notamment cette phrase qui m'a marquée: l'émotion influence le goût influence l'émotion. Je pense qu'avec cette émission qui vient de s'écouler, tous nos auditeurs et nos auditrices seront convaincus qu'on ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Et donc, dans la préparation de cette émission, j'avais fait passer à Pascaline Le Pelletier la table des matières, des recettes proposées dans cet ouvrage, et lui avait demandé si certains des plats pouvaient s'accorder avec ces vins. Elle m'a indiqué trois plats, et j'en ai choisi un plus de saison que les autres. Donc, je vous laisse découvrir. Alors, ça sent l'ail, oui, évidemment.
Absolument.
Là, je pense que
et pendant que l'on déguste justement cette préparation qui ressemble à une salade avec des noix, expliquez-nous le concept de ce livre. Il est d'abord anglo-saxon.
Alors, tout à fait. C'est un livre qui est d'abord paru en anglais. L'idée est de parler des différents aspects, son sensation en bouche, arômes, qui peuvent accompagner la dégustation de n'importe quel plat. Et ensuite, les recettes vont être organisées par grandes saveurs. Donc, vous avez un chapitre autour de l'acidité, un autre sur l'amertume, le salé, le sucré, le savoureux, le piquant, la richesse. Donc, on n'est pas réellement sur les saveurs à proprement parler, on est sur quelque chose d'un petit peu plus large. Et là, c'est une salade, effectivement, de lamelles de chou de Bruxelles.
Oui.
Donc, ce qui peut paraître assez étonnant, que Pascaline conseillait de déguster avec son premier vin. Donc, le premier vin qu'elle nous a servi, Anolium. La salade est vraiment très très simple à faire. C'est-à-dire que les choux de Bruxelles vont être crus et émincés. Donc, je les ai passés au robot, en fait, tout simplement.
On peut les mandoliner.
Bon, vous y laissez un doigt, mais ça, c'est au goût de chacun. Moi, personnellement, le robot, c'est très pratique. Et ensuite, on va faire reposer les lamelles dans un saladier d'eau glacée, légèrement salée, ce qui va permettre, en fait, de casser un petit peu l'amertume qu'on peut trouver dans le chou de Bruxelles. Et à côté de ça, on va faire torréfier des noix, qui vont donc dégager des composés aromatiques. On va faire aussi dorer des échalotes avec un peu d'huile au four une bonne trentaine de minutes. Donc les échalotes vont avoir un petit goût caramélisé. Et la sauce va être tout simplement faite, et ça c'est quelque chose qu'on connaît assez mal en France, c'est pas notre tradition. Et là aussi on voit que c'est un livre qui est traduit. La sauce est faite à base de crème fraîche, mélangée avec de l'ail, du sel, du poivre et du jus de citron. Mmh. Et on obtient effectivement quelque chose qui est assez étonnant, parce qu'on n'a pas tout l'odeur du chou de Bruxelles. On a un croquant qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, parce qu'on a tous l'habitude de manger des choux de Bruxelles trop cuits, insipides, odorants, qu'on n'aime pas. Et là, je pense qu'on a fait un pas de côté assez intéressant pour découvrir justement quelque chose d'un petit peu nouveau. Et c'est tout l'intérêt de ce livre, à mon sens, c'est nous obliger un peu à sortir des sentiers battus et à s'interroger autrement sur la manière de composer ces plats.
En fonction des associations de saveurs, puisque le titre de ce livre...
L'équation des saveurs.
C'est l'équation des saveurs.
Tout à fait.
Et c'est, vous nous en rappelez les références ?
Aux éditions Hachette, qui décidément, cet automne, j'avoue, sont très 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 présents dans le monde de l'édition culinaire.
Très bien, un immense merci. Vous confirmez que ça va bien avec la cuvée Anolium de nos amis auvergnats, Pascaline ?
Ah oui, bah, le chou de Bruxelles, c'est toujours un peu compliqué. moi, j'aime bien le saké avec le chou de Bruxelles, mais c'est mon côté, la chance de travailler à l'étranger, et le saké, les gens aiment beaucoup. Ouais, non, ça marche bien, parce qu'en fait, il y a assez de gras dans le vin. C'est pas un vin anémique, ça fait 12% d'alcool, mais il y a assez de gras. Donc avec la sauce et tout ça, c'est très très bien. Et la mer, c'est top. Je savais pas ce côté à l'eau froide pour enlever la mer, mais il n'y a pas du tout d'amertume au niveau du chou de Bruxelles. On est vraiment sur les notes quasi noisettes, végétales du chou, qui est superbe. Non, je trouve que ça...
Enfin, alors, la salade est délicieuse, et le anolium avec cette toute petite pointe très légèrement oxydative, il vient enrober l'ail. Ça fait un très joli accord. Bravo, cette salade est délicieuse.
On pourrait travailler ensemble.
Merci à tous, merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin. Un grand merci, Laura David.
Merci.
On vous laisse rentrer à Mont-Louis-sur-Loire. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Bravo pour vos cuvées. Toutes les références sur franceinter.fr à la page On va déguster. Il y a également le deuxième coup de cœur qu'on va goûter ensemble maintenant, mais malheureusement, on n'a pas le temps.
Ah, oui.
Citez-nous juste la deuxième cuvée que vous nous aviez apportée, chère Pascaline.
Oui, c'est un vin qui est produit du côté de Saint-Chinian, donc dans le Languedoc, où il y a vraiment des pépites incroyables. C'est le domaine Borde, avec Emma et Philippe Borde, qui font un travail exceptionnel à des prix incroyablement doux. Donc on est sur les contreforts quand on va vers la Montagne Noire. Et c'était Arabesque de Borde. C'est un 100% grenache sur des terroirs géocalcaires. Et c'est des grenaches qui pinotent. Voilà, si vous aimez le pinot avec une petite touche sudiste, c'est absolument incroyable. Et c'est des vins exceptionnels de qualité pour un rapport qualité-prix imbattable.
Ben écoutez ça, on va trinquer ensemble avec cette cuvée. Un grand merci, chère Pascaline, bon retour
merci.
À New York. On va suivre évidemment vos aventures jusqu'à ce fameux championnat du monde de sommellerie en février prochain à Paris. Là, il y a déjà des papillons dans le ventre, j'imagine.
Mais pas du tout.
Pas du tout.
Et si vous voulez y assister, en fait, je voulais dire, la finale, elle sera publique, elle sera la Défense Arena. Ça va être un truc fantastique, ça fait un peu Broadway en fait. Si vous avez fait des comédies musicales, c'est un peu ce genre de... Je crois que les tickets sont dispo maintenant,
avec
mais vous allez pouvoir...
Avec une super ambiance.
Ça va être une ambiance de fou, j'ai pas mal de vignerons qui seront là, donc...
Absolument. Et puis, je rappelle les références du livre Somme que vous publiez chez Hachette Cuisine, Mille Vignes, qui sort donc mercredi prochain aux éditions Hachette Cuisine. Un grand merci pour votre visite, Pascaline. La semaine prochaine, on parle agrumes avec Anne et Thor. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.